Les séminaires du Collège de France.
Bien, veuillez excuser mon retard. Alors, je serai bref du coup, puisque le temps a déjà commencé à filer. Nous recevons aujourd'hui deux chercheurs, dont les noms riment, Jocelyne Serrari et Daniele Ferrari. Jocelyne Serrari parlera en premier. Elle est partie de Marseille, si j'ai bien compris, mais a fait une carrière internationale tout à fait brillante. Elle a enseigné dans des universités américaines. Elle est actuellement associée au groupe de sociologie des religions de la laïcité. C'est toujours vrai? C'est fini? D'accord. Et son poste actuel, qui est affiché ici, c'est professeur à l'université de Birmingham. Elle a publié de nombreux ouvrages, en anglais principalement, mais il existe aussi des versions françaises. Et ce qu'elle a essayé de faire tout au long de sa carrière, c'est d'allier la science des religions et la science politique, on peut dire ça, et d'étudier notamment ce qui arrive à l'islam quand il change de position, qu'au lieu d'être majoritaire, il se retrouve minoritaire dans les sociétés où les personnes migrent. Voilà, j'ai dit l'essentiel. Et puis ensuite, on prendra la parole Daniele Ferrari, qui lui est un juriste très pointu, je dirais, qui s'est intéressé à une question qui peut paraître étrange, essayer de définir juridiquement la notion de minorité religieuse, sachant que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit, puisque, comme je l'avais dit à la fin de mon dernier cours, la religion peut se situer du côté du persécuteur ou du persécuté, voire des deux côtés à la fois, comme on le voit dans le cas, par exemple, de la minorité Hazara, chiite, une certaine version du chiisme, persécutée par les sunnites d'Afghanistan. Donc, il va nous expliquer tout ça. Je laisse tout de suite la parole à Jocelyne Serrari.
Bonjour. Merci, professeur Errant, pour cette invitation. Ça fait très longtemps que je n'ai parlé à une audience française, donc ça me fait vraiment plaisir. Je suis en effet beaucoup plus dans le milieu anglo-américain en ce moment. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de complexifier une approche qui est très passionnée, très émotionnelle sur la question de l'intégration religieuse et de fournir une comparaison, au minimum en Europe et au-delà, si possible. Alors, avant de discuter en plus de détails l'intégration religieuse des musulmans, je voudrais rappeler que ils sont au cœur, les populations musulmanes sont au cœur en Europe de trois problèmes, aux trois faits majeurs qui sont souvent confondus avec la question de l'islam. La première, c'est l'immigration. Quand en Europe aujourd'hui, mais aussi particulièrement en France, on parle d'immigrés, on pense musulmans. Or, tous les musulmans ne sont pas immigrés et tous les immigrés ne sont pas musulmans. Mais il y a une visibilité centrale que j'ai expliqué dans d'autres publications, qui fait qu'il y a une association perpétuelle, la plupart du temps exprimée, mais aussi implicite, sur la question d'immigration et islam, ce qui tend aussi à renforcer l'illégitimité de la présence de l'islam dans les espaces sociaux. La deuxième caractéristique, c'est ce que j'appelle la composante ethnique ou culturelle. Par exemple, les musulmans d'Afrique du Nord sont concentrés en France, un peu en Belgique et un peu aux Pays-Bas, mais il y a donc une tendance à associer l'islam avec des traits culturels très patriarcaux et très négatifs sur les femmes, qui ne sont pas toujours dus à l'islam mais à une certaine culture, je dirais méditerranéenne, encore que dans le cas de la Grande-Bretagne, on a la même concentration, mais c'est pas la Méditerranée, c'est l'Asie du Sud-Est. Donc il y a des caractéristiques de l'islam de l'Asie du Sud-Est qui sont considérées par les citoyens britanniques comme des composantes ou des caractéristiques de l'identité religieuse, et parce que les acteurs eux-mêmes les présentent de cette manière. Le troisième facteur, c'est qu'on a affaire à travers l'Europe à une immigration de la pauvreté. Donc il y a aussi tendance à associer questions d'intégration urbaine, d'intégration économique, de mobilité socio-économique à des questions d'islam. Or, ce n'est pas le cas. Et je sais que la plupart du temps, quand je commence d'emblée sur la question de l'islam, tout le monde me répond en disant « Non, mais c'est un problème économique, c'est un problème urbain. » Oui, tous ces problèmes existent. Mais si demain, on peut rêver, si demain ces trois dimensions ne posent plus de problème, il y aura quand même une discussion sur l'islam. Et ça, je m'en suis rendu compte dans mon voyage de la France aux États-Unis. C'était pas clair pour moi. Aux États-Unis, les musulmans sont pas le groupe le plus dominant de l'immigration. On peut pas les concentrer sur un groupe ethnique. Il y a des Arabes, il y a des Iraniens, il y a des Africains. Personne vous dira qu'il y a une association entre islam et Algérie, par exemple. Ça passe même pas dans l'esprit des Américains. Et ils sont pas issus d'une immigration de la pauvreté, ils sont issus d'une immigration très qualifiée. Ils sont au-delà de la moyenne de revenus des Américains. Ils sont très éduqués, très intégrés, mais ils sont très musulmans. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il faut faire cette première mise à plat. Autrement, la confusion s'installe d'emblée. Alors, ayant dégagé le terrain, si je puis dire, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce que je vais discuter dans quelques minutes n'est pas influencé par ça. Mais pour le bien de l'analyse, je ne peux pas tout intégrer dans les quelques minutes qui me sont dévolues. Alors, le deuxième point que je voudrais faire, c'est que je ne vais pas utiliser le terme laïcité. Le terme laïcité n'est pas un concept. C'est une culture, c'est un principe juridique. C'est devenu récemment, d'ailleurs, dans l'histoire politique française, un des piliers centraux de l'identité nationale. Mais ce n'est pas un concept. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme sécularisation, parce que il n'y a pas un mode séculier, il y en a il y a une multiplicité de modes séculiers, et que c'est toujours en mouvement. C'est un processus qui ne s'arrête jamais. Et je sais qu'en France, moi, j'étais éduquée de cette manière aussi, la laïcité est vue comme une acquisition qui ne peut pas changer, qui a apporté beaucoup de bénéfices à tous les citoyens, et de ce fait est considérée comme un héritage qui ne peut pas changer. La réalité, c'est qu'elle a changé la laïcité française, mais c'est le cas aussi des autres modes séculiers à travers l'Europe et au-delà. Donc, sécularisation, ici, réfère à un processus de changement où la religion perd de son influence dans multiples domaines sociaux, mais aussi dans les institutions publiques et culturelles. Et ces deux niveaux ne sont pas les mêmes, je vais aussi expliquer ça plus en détail. Pourquoi sécularisation ? Parce que ça a une portée inclusive et que ça me permet, au-delà du cadre juridique, d'expliquer ou d'analyser les transformations sociales. Et aussi parce que c'est beaucoup plus neutre politiquement. Si je dis laïcité aujourd'hui en France, je suis positionnée d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas mon job. En tant que chercheur, je n'ai aucun intérêt à être positionné. Mon job, c'est d'essayer d'expliquer. Même des choses avec lesquelles je ne suis pas en agrément. Donc, vous allez entendre beaucoup parler de sécularisation. Alors, aussi, on est en Europe, donc il y a diverses manières. Il y a beaucoup de modes séculiers. Donc, la France, je voudrais le rappeler quand même, est le seul pays avec les États-Unis à travers toutes les démocraties séculières qui sépare. Ça ne veut pas dire que les autres pays ne sont pas sécularisés. Sauf ce que nous prenons pour un mode universel est en fait un mode minoritaire. Ça implique neutralité de l'État, cantonnement du religieux dans l'espace privé. Le défi de la laïcité française depuis son origine, c'est de concilier cette neutralité avec le respect de la liberté religieuse. Et cette liberté religieuse est considérée dans la culture française comme moins importante ou cruciale que les autres libertés. Et il y a une raison pour ça. Okay. Parce que la laïcité française s'est construite dans le combat incessant contre l'Église catholique, qui non seulement occupait une énorme part de l'espace public et des institutions publiques, mais qui aussi était, pour très longtemps, pendant très longtemps, et on l'a oublié ça, était antidémocratique. Et donc l'État français, la République française, dans son projet de démocratisation, avait toujours l'Église catholique comme ennemi. Donc on pousse en dehors de toute influence, non seulement institutionnelle, mais aussi sociale. Et c'est là où la question de la liberté religieuse devient clé, parce qu'il n'y a rien dans la sécularisation qui interdit la visibilité, la légitimité sociale du religieux, mais pas en France, pour les raisons que je viens de dire. C'est très important, ça. Parce que 2/3 des questions que nous débattons sur le problème de l'islam, et je vais le montrer, ne sont pas automatiquement des problèmes dans d'autres espaces démocratiques et séculiers. Le Royaume-Uni est un cas intéressant. C'est un pays sécularisé, mais il y a une religion d'État. Et en fait, ce qui fait la sécularisation britannique, c'est la reconnaissance, la protection par le droit de toutes les composantes, de toutes les autres populations religieuses. Okay. Le problème qui vient teinter, si je veux dire, la question de l'islam en Grande-Bretagne, c'est aussi la reconnaissance de la diversité ethnoculturelle que nous n'avons pas ici en France, dans le sens où les groupes religieux sont aussi définis, surtout quand ils viennent de l'immigration, par leurs caractéristiques ethnoculturelles, le langage, certaines pratiques culturelles, etc. Et donc là, c'est aussi un défi spécial. Le Royaume-Uni n'est pas le seul à avoir une église d'État. C'est aussi le cas, encore que certains ont été récemment transformé, c'est aussi le cas des pays scandinaves. Mais ça ne veut pas dire, si je ne suis pas membre de l'Église luthérienne, que je n'ai pas le droit de pratiquer ma religion. Et c'est ça qui fait la sécularité. Ce n'est pas automatiquement la séparation, c'est la reconnaissance par l'État et la protection par l'État de tous les groupes de pratiquer leur religion. L'Allemagne, et je mettrai aussi l'Italie, l'Espagne, c'est un modèle beaucoup plus coopératif. L'Italie, l'Espagne, c'est ce qu'on appelait en France avant le modèle concordataire. Ça exige que l'État entre en discussion avec les organisations religieuses. Mais c'est pas ça le plus sensible sur la question de l'intégration religieuse aujourd'hui. Et là, je voudrais vous montrer 3 niveaux. Encore une fois, je vais être obligée de les séparer, mais ils sont tout le temps en interaction, que j'ai utilisé dans mon dernier livre. Il y a 3 niveaux de la sécularisation. Et le problème, c'est que les universitaires ne parlent pas du même niveau. Il y a la dimension institutionnelle, c'est-à-dire quel est le statut et la relation entre l'État et les organisations religieuses. C'est cette planche que je venais de vous montrer. Il y a la dimension sociétale qui est quel est le statut du religieux dans la société. Et ça, c'est beaucoup plus le domaine des sociologues. Le premier domaine, c'est le domaine des universitaires du droit constitutionnel. Et puis, il y a la troisième dimension qui est le niveau de pratique religieuse, d'identification religieuse des personnes. Et on a l'idée en France que séparation, privatisation au niveau social et déclin de la religiosité personnelle sont les trois caractéristiques majeures de ce que c'est être une société laïque. Le problème, c'est que ça n'existe pas. Juste un exemple, parce que pour moi c'est très intéressant, comme je suis entre les deux. Comme je disais, la France et les États-Unis sont les deux pays qui séparent. Donc, en fait, les États-Unis séparent beaucoup, beaucoup plus que la France. Mais ça, c'est encore une autre discussion. Donc là, on est séparation, les deux seuls pays du monde. Dimension sociétale, c'est l'opposé. La religion aux États-Unis n'est pas toute confinée dans tous ses aspects, confinée dans l'espace privé. C'est Tocqueville, se rendant aux États-Unis et remarquant que les congrégations, les communautés religieuses sont la fabrique de la société américaine. Et ça, ça n'a pas changé. C'est pour ça que vous avez des hôpitaux qui viennent, leur histoire vient de communautés religieuses qui les ont fondées. Et elles, ces institutions culturelles, sanitaires, médicales, ne sont pas réservées uniquement aux personnes de la religion. Et c'est ça qui fait la force de la société américaine. Bon, la dimension individuelle, c'est aussi intéressant si on compare, encore que c'est en train de changer maintenant sur les 10 dernières années. Aux États-Unis, la majorité des gens se déclarent religieux, croyants en Dieu. En France, c'est l'opposé. Pourtant, les États-Unis sont un pays séculier. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire laïque. Et je voudrais insister sur ces trois niveaux, parce qu'aucun pays ne combine ces trois niveaux de la même manière. Alors, pour le besoin de cette présentation, je n'ai pas insisté sur la dimension individuelle, parce que, vous le savez, il y a beaucoup de sondages et d'enquêtes qui montrent qu'à travers l'Europe, quand les Allemands, les Britanniques ou les Français sont questionnés sur la question du religieux, ils disent qu'ils ne croient pas, que Dieu n'a pas d'importance dans leur vie. Les musulmans sont les seuls pour qui ça a encore beaucoup d'importance. C'est très intéressant pour moi, encore une fois, venant des États-Unis, quand la même question est posée, les musulmans ne sont pas les plus, sont pas au sommet de la statistique. C'est les mormons qui sont au sommet de la statistique. Mais beaucoup d'Américains vous diront que la religion, c'est important pour eux. C'est pour ça qu'ils ne voient pas dans la présence de l'islam dans l'espace public, ils n'ont pas la même anxiété, si je puis dire, ou ça ne dénote pas de la même manière. Tout le monde va pratiquer du religieux. On ne peut pas faire de politique, même si on est un mécréant, sans se rattacher à une tradition religieuse, d'une manière ou d'une autre. Ça vous donne de la légitimité sociale. Alors, je dis ça ici à l'audience française, mais quand je le dis à une audience américaine, ils sont très choqués. Le général de Gaulle était très pratiquant, catholique pratiquant. Personne ne s'en rendait compte. Quand il était dans sa fonction de président, et bien, il y a beaucoup de fonctions qui se passent dans des églises, il ne prenait jamais la communion. Parce qu'il était le président de tous les Français. Quand je dis ça aux Américains, ils ne comprennent pas. Mais non, ça renforce sa légitimité en tant qu'acteur politique. Il est vertueux, il est moral. Et donc là, vous voyez bien qu'on est sur des dimensions qui ne sont pas que le principe juridique. Alors, je vais maintenant essayer de vous montrer que sur ces trois niveaux, ou plutôt les deux, je ne vais pas aller au niveau personnel, mais sur la dimension institutionnelle et la dimension sociétale, c'est la dimension sociétale sur laquelle je vais passer le plus de temps, qui est le vrai problème de la question de l'islam dans les espaces religieux. Bon, la dimension institutionnelle, vous la connaissez. En France, elle a fait lieu de multiples épisodes juridico-politiques. C'est la nécessité d'organiser l'islam d'une manière similaire à celle des autres organisations religieuses, modèle coopératif, concordataire. Sauf quand il y a une église d'État. Mais même dans ces cas-là, les Britanniques, pendant un moment, sur le modèle français, ont essayé de regrouper et d'organiser un semblant de visibilité ou d'homogénéité pour les populations musulmanes. Ça n'a pas marché. En France, ça a marché. Et ce que personne ne réalise, c'est que ça, c'est une dimension de la sécularisation française. À ma connaissance, à part des petits groupes très minoritaires, toutes les élites musulmanes se sont jetées à plein pied dans la négociation avec l'État. Mais ça n'est jamais perçu comme « Oh, ils font partie de la culture laïque ». Ils ont, en fait, quand Napoléon, au temps du Concordat, parce qu'il n'y avait pas encore de séparation, va pousser les communautés juives à s'organiser, il y aura beaucoup plus de résistance à l'époque de la part des rabbins que Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, n'en a eu de la part des élites musulmanes. Donc ça, c'est une dimension d'intégration qui passe inaperçue. Et c'est très très intéressant pour moi de voir que la plupart des élites musulmanes, et je parle des élites musulmanes et je ne parle même pas de la population, n'ont aucun problème avec un État séculier. En fait, la majorité sont beaucoup plus, je dirais, libres, se sentent beaucoup plus libres d'être religieux que dans les conditions des pays musulmans d'où ils viennent, où pratiquer la religion n'est pas automatiquement un signe de religiosité personnelle, mais un marqueur social qu'il faut faire. C'est-à-dire, si pendant le mois de Ramadan, vous voulez manger, vous pouvez, mais il ne faut pas le faire en public. Si vous voulez consommer de l'alcool, et beaucoup en consomment, c'est, vous n'allez pas vous promener avec une bouteille de vodka sous le bras ou de vin rouge sous l'autre bras. Non. Mais vous pouvez. Donc, donc du coup, cette espèce de contrainte sur la religiosité personnelle, même si on n'est pas convaincu que c'est la bonne manière d'être, est libérée. Ça n'existe plus. Plus dans le contexte français, par exemple. Si vous décidez d'être pratiquant, c'est parce que vous le voulez. Et j'ai beaucoup de témoignages où, en fait, les musulmans préfèrent cette situation à celle d'une religion d'État imposée. Alors, cette intégration institutionnelle, si je puis dire, a été compliquée dans les depuis le 11 septembre, mais en France, je dirais même avant, par la question de la sécuritisation. Parce qu'encore une fois, l'intégration du religieux ne se fait pas dans un État indépendant, d'une situation indépendante des enjeux internationaux. Et ce qu'on a vu dans les 20-25 dernières années, c'est en effet la croissance mondiale d'islamistes, de groupes islamiques radicaux qui ont été... très violent, et la France a payé un prix très cher pour ça. Et donc, la question de l'islam, sous le biais de l'État, va devenir aussi un enjeu sécuritaire. Et c'est tout à fait compréhensible. Le rôle numéro un de l'État, c'est de protéger ses citoyens. Donc, si le danger vient de groupes qui se mobilisent au nom de l'islam, quelle que soit la validité de cette justification, il va falloir que l'État prenne des mesures. Et c'est là où on a vu augmenter, et là il y a des statistiques très très intéressantes, qui montrent que l'intrusion de l'État dans la gestion des affaires religieuses des musulmans non seulement en France, mais en Europe, ça c'est une donnée à travers l'Europe, indépendamment de la configuration institutionnelle, a augmenté de manière exponentielle. Il y a de plus en plus de nécessité pour l'État de contrôler les mosquées, de contrôler les imams, de contrôler la manière dont l'islam est enseigné, pour les raisons sécuritaires que je viens d'évoquer. Et encore une fois, parce que les Européens ont payé un prix très cher, particulièrement les Français. Donc là, il se passe quelque chose qui va faire que la pratique de l'islam n'est plus vue uniquement comme une pratique religieuse, surtout si elle est très conservatrice. Et elle va être vue comme un positionnement politique. Et c'est très difficile. J'ai passé beaucoup de temps avec avec les forces de l'ordre qui doivent veiller à la sécurité. Et ils n'ont pas les moyens de distinguer quelqu'un, par exemple, qui est un salafi, qui est habillé avec la tunique blanche, la tête couverte, tout ça. Il ressemble à Bin Laden. Vous êtes... Et alors là, comment on fait la différence? Parce que, encore une fois, moi, ce que je vois dans ma recherche, c'est qu'il y a des gens très, très conservateurs sur le plan du religieux, mais qui ne sont pas des terroristes. Mais ils sont très, très conservateurs. Alors, comment on fait la différence? Et c'est des discussions qu'on peut avoir. Je comprends la difficulté des forces de l'ordre dans ces cas-là. Je comprends aussi l'anxiété de la population française sur ces problèmes. Et c'est là où la dimension institutionnelle devient aussi un problème. Et ça, c'est à travers l'Europe. Et pour moi, j'étais encore en France, ça a commencé, vous peut-être vous souvenez, en 1995, il y avait un attentat dans le métro de Paris par un jeune musulman d'origine algérienne. À l'époque, c'était pas Al-Qaïda, c'était le mouvement du Front islamique du Salut en Algérie. Et il avait été tué par les forces de l'ordre. Mais à partir de là, il y a eu le plan Vigipirate qui existe toujours, qui est passé par différentes étapes. Et le plan Vigipirate obligeait les forces de l'ordre à faire attention à des éléments islamiques avec la peur de la sécurité. Alors, quelqu'un, par exemple, qui transporte un Coran, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est religieux? Est-ce que c'est une manière de se marquer politiquement? Et je suis tout à fait sensible à cette difficulté. En même temps, il y a des musulmans qui, et la plupart ne sont pas des terroristes, mais ils sont très, très conservateurs religieusement. Et c'est là où le problème devient presque ingérable. Et c'est pour ça qu'on est dans la situation où on est, de tension là, qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors, à cela s'ajoute depuis, en France depuis 1989, depuis l'affaire des foulards, qui n'a jamais cessé en fait, le niveau sociétal de la sécularisation. Et là, encore une fois, on parle de plusieurs éléments. Et ces trois éléments sont passionnels pour les Français. Parce qu'encore une fois, la démocratie française s'est construite sur ces principes qui consistaient, comme on dit, à repousser l'infâme, c'est-à-dire à pousser l'Église catholique en dehors de l'espace public. La première, c'est que les discours et les demandes dans l'espace public ne peuvent pas être exprimés avec du langage religieux. Et ça, c'est vrai à travers toute l'Europe. Or, la plupart du temps, on a des autorités religieuses en Europe, venant du Maroc, de l'Afrique du Nord, du Pakistan, dont la première, et qui n'ont pas la culture locale, dont la première mode d'expression avec l'entourage, c'est d'utiliser un langage religieux. Parce que c'est la manière dont ça marche dans les pays à majorité musulmane, mais ça ne marche pas en Europe. Et là, on a un premier problème, et je vais parler là, dans mon autre planche, de l'affaire des caricatures. Okay. La deuxième tension dans l'espace social, c'est, et ça, en France, on est très sensible à ça, c'est la tension entre les droits individuels et les droits, ce qu'on traduit par les droits communautaires. Par exemple, la question de la charia, de la loi islamique. La charia, encore une fois, il faut quitter l'idée que la charia, c'est couper les têtes et les mains. C'est pas ça pour les musulmans. Il y a que deux pays qui font ça. Maintenant trois avec l'Afghanistan. C'est l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Afghanistan des talibans. La majorité des pays musulmans n'appliquent pas le droit pénal islamique. En revanche, il y a de la charia dans tous les États musulmans au niveau de la loi civile. Il n'y a pas de mariage séculier dans la plupart de ces sociétés. Quand vous vous mariez non pas à l'église, mais vous vous mariez même devant un tribunal, parce que le mariage islamique est un contrat, c'est pas un acte sacré qui ne peut jamais être défait, c'est un contrat, et certaines autorités religieuses de l'islam, pour épicer un peu la discussion, c'est nous, avec le droit des contrats, on est bon, hein, pour le mariage islamique. Pourquoi en faire toute une histoire, hein? Donc, mais c'est très important pour les musulmans, puisque, comme on l'a vu, ils sont très attachés à la religion. C'est important de se marier religieusement, et c'est aussi important de divorcer religieusement, parce qu'une femme qui n'est pas divorcée religieusement ne peut pas se remarier religieusement. Et donc, on a des situations très, très bancal, où par exemple le mariage civil, le divorce civil a eu lieu, mais pas le mariage religieux, pas le divorce religieux, pardon, et on voit le mari, parce que c'est la prérogative du mari, on voit le mari qui utilise ça comme un moyen de chantage, parce que comme vous savez, aucun divorce ne se passe facilement. Et alors là, ça donne une arme au mari très très puissante. C'est ce que les Anglais appellent « limping marriage ». Elle est divorcée d'un côté, mais encore mariée de l'autre. Et pour la plupart des femmes, c'est important ce divorce religieux, parce qu'autrement, elles ne peuvent pas se remarier selon la loi religieuse. Donc, c'est ce niveau-là qui est l'objet de discussion. Et qu'on le veuille ou non, je me souviens, l'archibishop de Canterbury, il y a quelques années, avait dit « mais la charia, elle est déjà là ». Ça avait créé toute une... un tollé, mais elle est déjà là. Elle est traitée au quotidien dans les tribunaux pour les divorces. Même par le juge français, même si... On parle pas de la polygamie. Ça, c'est un problème qui est un faux problème, en fait. Aucune des femmes musulmanes aujourd'hui que je connais n'a envie d'avoir plusieurs partenaires ou co-épouses. Merci. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la question du divorce, et c'est la question de la capacité des juges à comprendre la situation. Et c'est là où certains hommes musulmans vont jouer sur la patriarchie et pas sur l'islam. Si vous êtes un juge, et c'est un cas qui s'est passé, je ne sais plus dans quel pays, le père avait tué sa fille, ce qu'on appelle les crimes d'honneur. Il vient devant le juge et il dit « mais c'est mon droit en islam ». Non, c'est pas un droit en islam. Tu peux pas demander justification à travers l'islam. Et c'est très intéressant qu'il y ait toute une nouvelle génération d'autorités religieuses qui essaient de faire cette distinction. Mais le juge, c'est là où je vous dis que la question de la patriarchie, de la culture est très très liée avec la question du droit de la religion. Et c'est ces situations-là qui créent énormément de tensions non seulement dans la société française, mais à travers l'Europe. Le troisième élément sur lequel en France on s'est beaucoup focalisé, c'est ce que j'appelle la corporalité du religieux. Dans la plupart des religions, c'était même le cas du catholicisme avant la sécularisation, les pratiques sont corporelles. Elles ne sont pas que mentales ou spirituelles. La pureté, par exemple, c'est pas un concept abstrait. C'est quelque chose qu'il faut respecter dans son corps. C'est pour ça qu'avant de prier, on fait les ablutions. Et la modestie, qui d'ailleurs n'est pas une obligation seulement de la femme, mais aussi de l'homme en islam, exige une certaine manière de se vêtir. Bon, et c'est là où nous avons eu et continuons à avoir beaucoup de discussions. Parce qu'il y a aussi l'idée, et ça c'était très présent quand je suis partie, c'est devenu encore pire, c'est l'idée que les jeunes femmes musulmanes sont aliénées. Elles choisissent le foulard, dans 80-90% des cas. Et alors c'est encore plus vrai aux États-Unis, où elles sont très éduquées. Par exemple, je connais, c'est une de mes amies, elle est dans l'équivalent, le niveau d'un état de la Cour fédérale, elle siège avec son foulard. Et puis, personne n'a l'idée de lui dire, mais tu es une aliénée. Elle a le diplôme de droit de Harvard. Et ça n'a posé aucun problème. Donc là, c'est là où on voit que, cette corporalité religieuse, le christianisme en Europe est allé le plus loin dans la disparition de ces marqueurs. Mais ce n'est pas le cas de 90% des religions dans le monde, incluant les chrétiens qui ne sont pas des chrétiens occidentaux. Et ça aussi, ça crée un problème. Alors, je vais finir là-dessus, je ne sais pas combien il me reste de minutes. Alors, je voudrais illustrer ces trois éléments. Alors, reprenons sur la justification séculière. Vous vous souvenez des caricatures du prophète Mohammed? Ça commence dans un petit journal obscur. Que personne lisait. Je me souviens, j'étais aux États-Unis en classe et un de mes élèves musulmans me dit « Regardez, madame, ce qui se passe. Il y a ces caricatures qui sont en train de circuler en Europe. Et donc, d'un problème local, c'est devenu un problème global. Hein. » C'est aussi puisque l'Arabie saoudite s'en est mêlée. Et donc, ce qui était... C'est offensant. Je sais que part de notre culture française, c'est de se moquer du religieux. D'accord ? Mais où on s'arrête la moquerie et où commence l'insulte? Et c'est là où je dis que la question de la liberté religieuse en France n'est pas considérée avec le même sérieux que les autres libertés. Pourtant, pour beaucoup de gens, c'est important. Et donc c'est là où les musulmans commencent à s'exprimer, même s'ils n'ont pas, se sont pas mobilisés dans l'espace public. Ils ont été offensés par ça. Le problème, c'est encore une fois, principe de justification séculière. Que fait un de ces imams? Il va au ministre, au premier ministre de l'époque, et lui dit, c'est blasphémie. Et le ministre lui dit, désolé, moi, je comprends pas ce langage. Et il a raison. C'est pas blasphémie. On peut pas utiliser ce genre de langage dans un espace séculier. En revanche, en Europe, on a des lois, d'ailleurs que les Américains ne comprennent pas, qui limite la liberté d'expression pour le respect ou contre le racisme, la négation de l'Holocauste. Et je connais des musulmans à l'époque, très versés dans le droit, qui ont essayé de prendre cette route. Personne ne les a écoutés. On peut, en Europe, exprimer son mécontentement en disant « j'ai été offensé ». C'est pas dire « je suis pas d'accord ». C'est dire « ces symboles-là, ils sont importants pour moi, vous les ridiculisez, vous les tournez plus qu'en dérision, je suis pas d'accord ». D'ailleurs, des catholiques le font aujourd'hui. Il y a très longtemps, il y avait la dernière tentation du Christ. Je me souviens que les groupes catholiques protestaient devant les cinémas. Il y a eu, alors c'est très intéressant, en 2006, juste avant la crise des caricatures, il y avait une énorme publicité de Dolce & Gabbana, le couturier italien, qui représentait le dernier repas de souper du Christ, la scène, et avec des mannequins dans divers états de nudité. L'Église a dit « c'est pas possible ». Et le juge administratif à l'époque était prêt à écouter. Après l'affaire des... C'était au moment où l'affaire des caricatures était en montée en puissance. Ça s'est terminé très vite. Ça, on n'a plus voulu discuter ça. Et donc, c'est là où il y a quand même un niveau de communication qui ne se passe pas, qui ne se produit pas. Et c'est pour moi, ça, c'est très dangereux pour la démocratie. Alors, le deuxième, j'en ai déjà parlé, le deuxième élément, c'est en effet toute la question du management, de la gestion de la famille autour du droit musulman. C'est là où la charia est importante pour la majorité des musulmans. Même quand ils ne pratiquent pas, ils veulent un mariage religieux. Alors, il y a plusieurs arrangements. Par exemple, en Grande-Bretagne, l'imam peut aussi signer le certificat du mariage civil. En France, non. Il faut d'abord passer par le mariage civil et après, on fait un peu ce qu'on veut dans nos mosquées, nos synagogues ou nos églises. Hein. Mais en Grande-Bretagne, il y a ce qu'on appelle un processus de régler les conflits en donnant de l'importance au rôle et aux procédures de différentes communautés. Et donc, il y a des charia courts, comme il dit. Il y a des tribunaux de charia, mais ils siègent sur la question du mariage et du divorce. C'est ça les points centraux de leur travail. Donc c'est là où une sorte de discussion s'installe entre le juge séculier et les discussions de la cour ou du tribunal de charia. Alors il y a des cas où les membres de ces tribunaux sont très négatif par rapport aux femmes. Très, très négatif. Et donc, ils ne vont pas aller dans le sens d'écouter d'une manière équilibrée et faire le pour et le contre. Et il y a eu beaucoup d'enquêtes en Grande-Bretagne qui montrent que, encore une fois, ça dépend de la personnalité des juges. Il y a des autres cas où... le mari se refuse à donner le divorce et c'est un droit religieux. Personne ne peut lui prendre ce droit. En revanche, il y a eu des tribunaux où les imams lui ont envoyé plusieurs notes, première alerte, deuxième alerte, si tu divorces pas, nous on te divorce. Et ils l'ont fait. Donc, vous voyez, c'est toutes ces négociations qu'on ne prend pas ou qui ne sont pas visibles, on va dire comme ça. Il y a des tribunaux où des femmes siègent dans les sessions, pas la majorité, hein, surtout si on est dans le monde pakistanais où il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc vous voyez là, on a un exemple. Donc, pourquoi la justification séculière, c'est centrale dans la question de l'intégration religieuse, la question du droit religieux, ce que les juristes appellent la pluralisation du droit, d'ailleurs qui ne concerne pas que le religieux. Tous les juristes aujourd'hui ont à tenir en compte de différentes règles et de procédures qui ne sont pas standards par rapport à... la procédure séculière. Mais bon, dans ce cas-là, c'est la question du mariage et du divorce. Le troisième exemple, c'est en effet la manière dont on se présente en tant que citoyen dans l'espace public. Et là, je dirais que c'est en France que les problèmes sont les plus intenses. Bon, là, j'ai mis en photo, vous avez tous suivi le Burkini. Le juge avait, il y avait des municipalités où on interdisait les femmes de se baigner dans cette tenue. Mais même le juge a dit, c'est ça la liberté religieuse. Est-ce que cette jeune femme impose sur l'autre baigneur de se présenter comme ça? Est-ce que elle transporte une arme? Ça, c'est des trucs, c'est des points à prendre en compte, je suis d'accord. Mais si elle se baigne comme ça, quel est le problème? En France, on a un problème avec ça. On n'a pas de problème avec ça. Après avoir passé 25 ans aux États-Unis, il n'y a aucun problème avec comment on se présente avec des signes religieux dans l'espace public. En Angleterre non plus. Le problème est devenu, encore une fois, à cause de l'enjeu sécuritaire, le niqab, ce qu'on appelle le voile intégral, parce que, en effet, il peut être associé avec des actes violents. Il peut aussi cacher des actes inciviques. Et là c'est tout à fait compréhensible. Et à travers l'Europe, il y a eu des lois pour limiter le port du voile intégral. Mais par exemple, cette situation du Burkini ne s'est pas posée en Europe. Elle ne se pose qu'en France. Elle s'est posée? Je ne savais pas si vous disiez oui ou non. C'est là où quand même il faut être conscient de notre propre compréhension et comment ce n'est pas un principe universel. Et là, bon, j'en reviens aussi à la question de comment on éduque les nouvelles générations sur ces questions. Donc, je vais terminer là. Donc, je voudrais juste terminer ici en mettant l'alerte sur quelque chose que le religieux... Vous savez, on vit sur ce que j'appelle le religieux à la Kant. C'est-à-dire, le religieux, c'est d'abord, on a pensé, on a réfléchi, et après, on prend des décisions pour se conduire de cette manière ou de cette manière. Tous les sociologues et les psychologues vous diront que c'est pas ça, la religion. La religion, c'est d'abord comment on est socialisé dans une famille. Et on apprend des histoires, on apprend qu'il y a les bons et les méchants, tout le monde. On n'est pas des religieux kantiens. Et aussi, la tête, qui est très importante, n'est pas dans la religion l'élément central. C'est toute la personne. Et le corps et la tête ne sont pas séparés. Et donc ça, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est 90% de la manière dont les gens vivent leur religion, en dehors des espaces, je vais dire, séculiers européens et particulièrement laïcs. Et que si on est angoissé par ça, c'est plus révélateur de notre identité que de l'identité des personnes en question. Avec toutes les bémols que j'ai posés le long du chemin, ok, de cette présentation. Donc, parce que le religieux, c'est collectif, c'est public, et ça peut pas être limité à l'espace privé. C'est inhumain de demander à quelqu'un de limiter son religieux dans l'espace privé. Et dans le monde entier, y compris les autres démocraties séculières, c'est considéré comme une entrave à la liberté religieuse. Voilà, je vous ai mis sur un long chemin et merci pour votre attention.
Bien, merci pour cet exposé qui avait plusieurs qualités, la clarté, mais aussi le recul, évidemment, le fait que lorsqu'on vit dans plusieurs mondes, comme vous l'avez fait, on est capable de comprendre que votre propre point de vue qu'on essaie d'universaliser, ben, n'est pas si universel que ça. Donc, la singularité française, l'universel français est très singulier. Voilà, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, je tenais à vous remercier vraiment pour la clarté de vos propos et je vous libère puisque vous devez bientôt repartir. Et je cède maintenant la parole à un juriste, Daniele Ferrari. J'ai oublié de dire dans quelles institutions vous travaillez. Vous avez été dans l'université d'un Subri qui était l'université de Varèse. Oui, mais à un certain moment, vous étiez dans l'université d'un Subri.
L'université des Siennes.
De Sienne, d'accord. Et maintenant, vous êtes dans le Piémont, qui est, correspond à quelle ville? Voilà, nous ne connaissons pas Alexandria, de très belles régions qu'il faut absolument aller visiter. Eh bien, Daniel, je vous donne la parole. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Errant pour l'invitation. Je suis vraiment honoré d'intervenir dans une institution aussi prestigieuse. Je suis juriste de religion, donc je m'occupe de la relation entre droit et religion, tout en sachant que pour le droit de religion, le droit n'est pas seulement une prérogative de l'État ou des organisations internationales, mais également une prérogative des confessions religieuses. Les confessions religieuses expriment des sphères de normativité. Donc nous travaillons toujours dans ce cadre très complexe de relations entre dimensions juridiques différentes. Aujourd'hui, je voudrais poser le cadre de notre réflexion sur le concept de minorité religieuse en droit international et en droit européen. Pour développer notre réflexion aujourd'hui, tout d'abord, je voudrais vous expliquer, vous illustrer ma méthodologie de recherche. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur le concept de minorité religieuse à travers une méthodologie de construction. Donc la minorité religieuse, on doit l'imaginer comme une construction juridique que nous sommes en train de bâtir, comme un chantier en fait. À partir de cette idée de la construction, tout d'abord, je voudrais vous illustrer la genèse historique de cette catégorie de minorité religieuse pour analyser après le développement et la transformation de la catégorie juridique de minorité religieuse pour poser à la fin des questions de réflexion que, selon moi, sont très importantes pour comprendre l'importance de la protection juridique de minorité religieuse. En fait, pour ce qui concerne la méthodologie, je dois faire référence à la réflexion de trois juristes. Le premier juriste, Jean-Louis Bergel, il était plutôt confiant sur la possibilité du droit de catégoriser la réalité. Pour Bergel, le phénomène humain est marqué par une superdiversité, mais le droit peut repérer des éléments en commun pour construire ces catégories. Donc nous, face à la superdiversité des phénomènes des minorités religieuses dans le monde, nous pouvons chercher ces points de contact pour essayer de bâtir, de construire notre catégorie juridique. Par exemple, la religion comme un élément de connexion entre les différentes manifestations de religions minoritaires dans le monde. Mais un autre juriste, Jean Carbonnier, qui en France est le fondateur de la sociologie du droit, en fait, il observait que le droit est trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite. Donc notre catégorie juridique doit toujours être en contact, rester poreuse à la réalité de la diversité religieuse. Et en fait, toute cette opération de construction, nous allons la développer dans un espace de pluralisme juridique. Et le juriste en Italie qui a élaboré ce concept de pluralisme juridique est Santi Romano. Donc voilà les trois références doctrinales que je voudrais essayer de suivre dans notre parcours, dans notre chantier de construction. L'espace de notre construction, c'est un espace qui est marqué, traversé par le pluralisme juridique, donc droit des Nations Unies, droit de l'Union européenne, droit du Conseil de l'Europe, droits nationaux, donc différentes sphères de normativité, et la relation entre ces sphères de normativité est parfois une relation de synergie, parfois de compétition, et dans des cas plus problématique de conflit. Au niveau chronologique, en fait, je voudrais commencer à construire cette catégorie après la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà l'espace juridique et chronologique de notre construction. Et notre construction est développée à travers trois phases, la genèse de la catégorie, son développement et après sa transformation. On passe tout de suite à la genèse historique, donc on part des fondations de cette catégorie des minorités religieuses. Pourquoi, après la Première Guerre mondiale, le droit international décide de fabriquer ce concept des minorités religieuses? où nous pouvons repérer la raison de cette construction. Mais la raison très pragmatique, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, il y a des changements de territoire. Et les changements de territoire, dans les conditions de paix mondiale, vont en fait produire de nouvelles minorités. Dans cette connexion entre territoire et religion, nous pouvons lire l'histoire de la discipline du phénomène religieux en Europe. Effectivement, au moins à partir de la paix d'Habsbourg en 1555, les princes décident la religion des sujets. Donc voilà, à travers le très réputé principe en latin « cuius regio eius religio », où il y a un territoire, il y a une religion. Donc, où il y a une nation, il y a une religion. Mais alors, quand le territoire va changer, la religion va changer. Et alors, après la Première Guerre mondiale, changement de territoire. Donc, la Turquie, par exemple, transfère de territoire à la Grèce. Dans ce transfert de territoire, il y a aussi des transferts des populations. Et la population qui était majoritaire en Turquie, parce qu'elle appartenait à la majorité musulmane, devient minoritaire dans un nouveau écosystème religieux, ceux de la Grèce, où la majorité, en fait, est chrétienne orthodoxe. Donc là, nous pouvons repérer, vous voyez, ces phénomènes de production historique de minorités. Mais c'est intéressant aussi d'observer que la construction de la minorité religieuse va déconstruire la relation traditionnelle entre la religion et le territoire, mais va déconstruire aussi la manière traditionnelle de construire la nation. En effet, dans ce contexte de reconfiguration territoriale, nous avons des sujets dans la même nation qui partagent la même nationalité, mais pas forcément la même religion. La religion devient un élément de distinction entre minorité et majorité. Troisième élément, comme a observé Hannah Arendt, la minorité religieuse, après la Première Guerre mondiale, devient une institution. Est institutionnalisée par le droit international, est institutionnalisée par la Société des Nations. La Société des Nations est l'organisation internationale qui doit garder des conditions de paix entre les États. Et parmi les conditions de paix, les critères pour garder cette paix, cet équilibre, après la guerre, il y a la protection des minorités religieuses. Pourquoi ? Parce que institutionnaliser en droit international la minorité religieuse veut dire faire en sorte que la minorité ne soit pas utilisée comme prétexte pour déclarer de nouvelles guerres. Donc vous avez un modèle de société qui est marqué par la domination de la majorité sur la minorité, et dans cette relation majorité-minorité, nous retrouvons un axe historique de construction de la minorité religieuse. À partir de là, donc, vous voyez, de ce contexte, de ce ligne de construction, nous passons à voir les textes juridiques. En droit, en fait, on travaille toujours sur les textes, donc sur les dispositions juridiques. Après, sur l'interprétation, donc on peut avoir une disposition et plusieurs normes, plusieurs interprétations. Et après encore, sur l'application du droit à la réalité. Donc là, on est dans le texte. Par exemple, dans le traité concernant la Pologne, nous retrouvons la formule linguistique minorité religieuse par rapport à une liberté d'exercer la religion minoritaire, donc de porter des signes religieux minoritaires, de pratiquer des orthopraxies ou des orthodoxies minoritaires, etc., etc. Donc là, nous avons dans le texte bien cette expression, cette formule linguistique. Mais si nous passons au texte un autre traité, le traité de Lausanne de 1923, là, il y a la relation entre la majorité et la minorité qui ressortent. En fait, la minorité est construite en tant que catégorie juridique en fonction de la relation avec la majorité. Si en Turquie, la majorité est une majorité musulmane, tous les groupes qui ne professent pas la religion musulmane sont minoritaires, donc de là, minorité non musulmane. Vous pouvez retrouver le même modèle de construction dans la Constitution italienne. La Constitution italienne, à l'article 8, alinéa 2, parle de confessions religieuses différentes de la catholique. Donc vous voyez, relation majorité-minoritaire, minorité, critère de construction de notre catégorie. Encore, l'interprétation, la première interprétation de cette catégorie, nous la retrouvons dans la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale. Là, pour moi, c'est intéressant de repérer ces éléments du sentiment de solidarité. La religion ne suffit pas comme élément pour établir la minorité, la dimension minoritaire d'un groupe, mais c'est cette relation religieuse doit être marquée par, en fait, la solidarité. Et donc, vous comprenez, c'est hyper compliqué, très complexe pour le droit, aller détecter cette solidarité, finalement. Ça correspond à quoi, cette solidarité religieuse? Après, nous avons l'application à la réalité. À partir d'un certain moment, la Société des Nations décide de reconnaître un droit de pétition aux minorités. Donc, dans des pays où les minorités sont victimes des violations de leurs droits, les minorités peuvent en fait faire remonter l'affaire jusqu'à la Société des Nations à travers des pétitions. Mais encore une fois, la condition d'admissibilité de la pétition, c'est la fidélité de la minorité à la majorité. La minorité doit rester toujours fidèle à la majorité et donc rédiger ses pétitions sans violence de langage et sans la finalité d'une rupture de lien politique avec la majorité. Là, vous avez un exemple face à des phénomènes de persécution de minorités juives en Roumanie. La pétition avait été déclarée pas admissible par la Société des Nations car elle avait été formulée selon des formules linguistiques violentes, en particulier dans la pétition, quelqu'un avait écrit que pour la Roumanie, il n'y a pas de place dans la famille des nations civilisées. Dès là, vous pouvez comprendre très bien l'échec du modèle des sociétés des nations. On a un modèle avec des droits, des dispositions, tout un système, mais un système qui n'existe pas dans la réalité. Les personnes ne sont pas habitées par le droit qui sont prévus dans les traités internationaux. Après, nous savons très bien, avec le totalitarisme, des politiques de droit d'extermination des minorités, c'est clair que ce modèle connaît vraiment sa faillite la plus grave. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a la nécessité de refonder un ordre mondial et de repenser l'être humain en droit international. L'Organisation des Nations Unies, en 1948, commence ce processus d'universalisation de l'humanité. La personne est protégée, est titulaire de droits humains universels, pas en fonction de son appartenance à une nation, pas en fonction de son appartenance à une minorité ou à une majorité, mais en fonction de son appartenance à l'humanité. L'appartenance à l'humanité est associée à une valeur, ces valeurs s'appellent dignité humaine. Et la dignité humaine trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 tout un catalogue de droits humains. Mais si nous lisons ce catalogue de droits humains, malheureusement, il n'y a pas la formule linguistique minorité religieuse. Il n'y a pas cette expression ni dans la Déclaration universelle, ni dans le statut des Nations Unies. Car face à l'universalisation de l'humanité, en fait, les Nations Unies ont des difficultés à intégrer dans cette logique universelle des droits qui sont très situés, qui sont liés à des appartenances spécifiques. Et donc, à la place de droits de minorités religieuses, c'est pour cette raison que je parle d'invisibilité, de minorités invisibles, nous retrouvons un droit humain à la liberté de pensée, conscience et religion. Un droit qui protège la liberté d'avoir, de changer ou bien de manifester sa religion ou sa conviction, mais pas le droit de minorité religieuse. Mais malgré ces manques de protection, il y a tout un processus de réflexion qui s'installe, des discours juridiques qui se développent dans les Nations Unies pour arriver à individuer une solution pour intégrer les droits des minorités dans le catalogue des droits humains universels. Et en fait, c'est une institution, c'est l'Assemblée générale d'abord qui déclare que les droits des minorités font partie des droits humains, Et après, c'est une institution spécifique des Nations Unies, la sous-commission de lutte contre la discrimination et la protection des minorités, qui est chargée de l'affaire, trouver une solution. Et la solution, en fait, arrive en 1966 avec l'article 27 du pacte sur les droits civils et politiques. Dans ce nouveau catalogue de droits humains, nous retrouvons finalement l'expression minorité religieuse. Mais il y a en fait plusieurs problèmes, comme toujours en droit, et aussi, plusieurs questions liées à la formulation, à la formulation de cet article. Déjà, dans les États où il existe des minorités religieuses, mais qui a le pouvoir de décider sur l'existence de minorités religieuses? Nous devons reconnaître cet pouvoir aux minorités. Donc, chaque groupe a un pouvoir de s'auto-qualifier comme minorité, ou c'est l'État? Chaque État qui doit déterminer, qui doit décider sur l'existence d'un groupe en tant que minorité. La deuxième solution est très dangereuse, car nous avons des États qui, en fait, sont contre les minorités, et donc, pour détourner l'obligation de l'article 27, peuvent pas reconnaître une confession religieuse en tant que minorité religieuse. Donc, le droit international a plutôt développé ces modèles de l'autoqualification. La minorité religieuse, donc, quand elle existe, elle a un droit de professer et de pratiquer la religion minoritaire. Toutefois, là, nous sommes en train de lire le texte, mais on n'a pas encore défini la minorité religieuse. Un droit, quand il y a la reconnaissance de droits, il faut toujours définir le destinataire de ces protections. Sinon, le droit reste en fait dans les déclarations, reste dans le texte, reste dans les articles de juristes, mais ils n'ont pas vraiment une dimension de réalité, ils ne sont pas effectifs. Donc, là, tout d'abord, c'est un juriste italien, Francesco Capotorti, qui est chargé de l'affaire. Il doit élaborer une définition universelle des minorités religieuses. Francesco Capotorti, tout d'abord, observe que les États ne sont pas disponibles et se méfient face à la construction de cette définition universelle. Donc, il y a une résistance des États à la construction de ces définitions universelles. Les États ont peur, en fait, de s'obliger à respecter une définition trop clair, trop strict, et donc préfère rester un peu dans le flou, pas définir la minorité religieuse. Francesco Capotorti, à la fin, arrive à définir les minorités religieuses comme un groupe numériquement inférieur, et les critères pour mesurer l'infériorité du groupe, c'est la religion. Pour Capotorti, également, les droits des minorités sont des droits réservés aux citoyens. Donc, si dans la logique des droits humains, les droits humains sont des droits qui appartiennent à tous les êtres humains, pour ce qui concerne les droits des minorités, dans une manière un peu illogique, contradictoire, pour Capotorti, il y a cette relation entre la minorité et la nation, que nous avons déjà observée après la Première Guerre mondiale, qui ressort et qui fait dire à l'expert qu'ils sont des droits réservés aux citoyens. Et en plus, la minorité doit être toujours un groupe pas dominant. Le groupe doit être toujours dominé par une majorité. Donc vous voyez encore une fois cette représentation très hiérarchique, hiérarchisée des sociétés nationales. La définition de Capotorti n'est pas retenue, les États ne sont pas d'accord. Et il y a un autre expert qui arrive en 1985, c'est un juriste canadien, Jules Deschamps, et lui, en fait, il est désespéré. Au début de son étude, il observe que les minorités religieuses sont comme un caméléon qui change leur couleur en fonction de l'endroit. Il dit, bon, il y a une variabilité énorme dans ces phénomènes de minorités religieuses. Moi, je n'arrive pas à retenir des éléments pour construire cette définition universelle. Ça part dans tous les sens. Et en fait, lui, à un moment donné, notre juriste s'abandonne à la littérature. Donc, nous trouvons une situation très recherchée dans son étude. Il dit, comme le disait un poète il n'y a pas si longtemps, « L'ennui naît un jour de l'uniformité. C'est peut-être la raison pour laquelle des minorités naissent, pour pimenter les menus de la vie. Pourtant, après une ou deux dégustations, on commence à se poser des questions. » Finalement, il n'y a pas de définition satisfaisante, j'ai failli dire recette, pour aller à l'extrême. N'y aurait-il pas même des majorités opprimées par des minorités actives et dominantes? Donc, vous voyez, d'un côté, les menus de le restaurant de l'humanité, c'est un restaurant très complexe. Le menu des minorités, c'est un menu trop varié. Les États n'arrivent pas à trouver un accord sur cette définition. Et de l'autre côté, en fait, dans une manière très contre-intuitive, notre expert va lire le phénomène de minorité dans une autre perspective. C'est plus les groupes, ou pas nécessairement le groupe dominé par une majorité, mais nous pouvons également avoir des minorités dominantes. Donc voilà que l'exercice de définition devient de plus en plus complexe. Encore aujourd'hui, je dois avouer, on n'a pas une définition universelle des minorités religieuses, donc le chantier est toujours ouvert. Après ces manques de définitions universelles à transformer les droits des minorités des membres des minorités religieuses en deux droits universels à géométrie variable. Et là, j'ai essayé en fait de regrouper deux facteurs de variabilité des droits de minorité. Premier facteur, c'est la résistance des États. Effectivement, la France a refusé de ratifier l'article 27 du pacte sur le droit civil et politique, tout en soulignant que l'indivisibilité religieuse de la République passe par un écosystème juridique laïque où les institutions de l'État sont neutres face aux phénomènes religieux, où il y a un principe de séparation entre les églises et l'État. La liberté de conscience à la lumière de l'article 1 de la loi de 1905 est protégée, et même l'égalité religieuse entre les citoyens. Donc cet écosystème juridique ne peut pas poser des distinctions entre les personnes fondées sur la religion, même quand il s'agit de droits des minorités religieuses, et donc ce système refuse complètement d'intégrer parmi ces sources, parmi ces règles, la catégorie de minorité religieuse. Donc, résistance d'un État, facteur de variabilité, parce qu'en France, on ne retrouve pas cette catégorie juridique. Deuxième élément, c'est un manque d'effectivité de la protection. C'est-à-dire que, vu qu'il n'y a pas une définition universelle de minorité religieuse, chaque État est en train de produire ou bien reproduire ces politiques du droit. Nous avons des politiques du droit très discriminatoires et très persécutrices dans certains pays. Dans des autres, on a encore des modèles où l'Église, la religion traditionnelle majoritaire est le critère de construction de la relation entre droit et religion. Mais de toute manière, cette hostilité des États a produit une situation générale dans laquelle les droits des minorités religieuses ne sont pas vraiment protégés. Et également, si nous regardons la jurisprudence du Comité des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme, c'est une institution des Nations Unies qui a une compétence à recevoir des communications dans des cas de violation des droits qui sont protégés dans le pacte sur les droits civils et politiques. Ce comité a appliqué l'article 27 concernant des communications des minorités religieuses seulement 5 fois en 2024. En particulier, parmi les cas que le comité des droits de l'homme est en train de décider, on a deux communications qui ont été en fait déposées par des représentants des mouvements religieux de Fethullah Gulen. Vous savez que Fethullah Gulen a été accusé en Turquie d'être le responsable de la tentative de coup d'État militaire en 2016. Il a en fait fui aux États-Unis où il a obtenu le statut de réfugié. Il vient de décéder, mais tous les membres de son mouvement en Turquie sont aujourd'hui très, très, très persécutés. Deux autres communications ont regardé la minorité des témoins de Jéhovah en Russie. Effectivement, à partir de 2017, la Cour suprême de Russie a déclaré extrémiste les centres administratifs des témoins de Jéhovah et a interdit toutes les activités religieuses de cette minorité sous le territoire de la Fédération. Donc, vous voyez que l'échantillon est très limité et surtout, les deux pays qui sont envisagés comme pays qui ne respectent pas le droit des minorités religieuses sont la Turquie et la Russie. Là, vous avez une autre représentation, en fait, de cette jurisprudence très rare. Après, vu que les États n'ont pas, en fait, une disponibilité à s'engager dans la protection des droits des minorités religieuses, à un moment donné, les Nations Unies ont décidé d'aller plutôt vers un modèle non contraignant. Donc, si les pactes sur les droits civils et politiques posaient des obligations aux États, donc les États ont l'obligation, si on ratifie, exécuter les pactes, de respecter ces droits, les déclarations restent plutôt dans la moralité, dans des obligations morales, éthiques, mais ils ne produisent pas, en fait, des effets juridiques obligatoires. Donc, en 1992, nous avons eu cette nouvelle déclaration de droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, mais là, c'est encore une fois le modèle qui devient plus souple face à la résistance des États à protéger vraiment les droits des minorités religieuses. Et de plus en plus, cette variabilité de la catégorie a été aussi marquée par la nomination d'un expert en matière de minorités religieuses. Donc, on va vers un modèle de spécialisation institutionnelle. À Genève, nous avons un juriste qui est spécialisé dans le droit des minorités. Il fait que ça. Il fait des voyages dans les pays pour tester le niveau de protection des droits des minorités. Il rédige des études et des rapports chaque année pour mesurer le niveau de protection de ces droits dans le monde. Et donc, ça, c'est un signal, encore une fois, d'une universalisation que de plus en plus glisse vers la spécialisation du droit. Donc, une catégorie, si vous voulez, si on rentre dans notre chantier, une catégorie qui est de plus en plus spécialisée. Et après aussi l'hétérogénéité de catégories dans le droit européen. Si nous lisons les sources du droit du Conseil de l'Europe, l'article 14 de la Convention européenne, on n'a pas la formule linguistique minorité religieuse. Là, on parle plutôt des minorités nationales. L'Union européenne parle à l'article 2 du traité sur l'Union européenne de minorité, mais ne spécifie pas la caractéristique qui minore le groupe. Et dans la même manière, dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 21, on a ce concept de minorité nationale. Donc, vous voyez, il y a une variabilité linguistique, et là, on doit comprendre à quelles conditions nous pouvons établir une superposition entre la minorité religieuse et la minorité nationale. À quelles conditions une minorité religieuse peut être considérée également une minorité nationale. La transformation. Là, on est un peu plus dans une dynamique de transformation de cette catégorie selon, en fait, 6 trajectoires de transformation. Première trajectoire, la déconstruction de la religion. De plus en plus, les Nations Unies parlent des minorités de religion ou des convictions. Pourquoi ? Parce que quand la liberté religieuse devient, en 1948, un droit universel, il faut trouver une interprétation de la religion capable d'ouvrir la religion à tous les points de vue moral, religieux, athée de l'humanité. Il faut déconstruire la religion en tant qu'objet de la liberté religieuse pour la rendre universelle. Et donc, la déconstruction de la religion, ça veut dire que la liberté d'avoir ou pratiquer une religion ne correspond pas à une théologie spécifique, ne correspond pas à une pratique religieuse spécifique, mais protège au même niveau des athées, des agnostiques, des catholiques, ou par exemple des pastafariens qui aiment bien se promener dans la rue avec une passoire sur la tête. Là, on est dans un contexte d'égalité et de déconstruction totale de la religion. On a parlé de sécularisation. Donc là, on est vraiment dans la déconstruction de la religion. Donc, cette déconstruction de la religion passe par une évolution linguistique où nous avons cette formule binaire religion-conviction et à un moment donné, religion-conviction est appliquée à les minorités, est appliquée aux minorités. Donc, minorité de religion ou de conviction. Donc, un groupe d'athées a le même statut et les mêmes droits d'une minorité juive ou musulmane, par exemple. L'Italie a réagi à cette définition inclusive de la minorité, et le gouvernement italien, pas l'actuel, a refusé en fait de négocier un accord avec une association d'athées disant « vous n'êtes pas une confession religieuse ». Même si, dans le droit italien, il n'y a pas une définition de minorité religieuse. Le gouvernement a dit « pour moi, tu n'es pas une minorité religieuse, tu n'es pas une confession religieuse différente de la catholique,
tu es autre chose, donc tu ne peux pas en fait faire débuter des négociations avec moi pour arriver à un accord. L'affaire est maintenant à l'attention de la Cour européenne des droits de l'homme et on attend son arrêt sur cette affaire. Deuxième perspective de transformation, c'est l'intersection entre minorités religieuses et populations autochtones. Effectivement, de plus en plus, les Nations Unies ont dit que les peuples autochtones peuvent aussi utiliser l'article 27 en tant que minorité religieuse, car les peuples autochtones manifestent une dimension religieuse très liée normalement au territoire, à la nature, et donc la spiritualité autochtone est considérée de plus en plus comme une religion minoritaire. Là, l'exemple, c'est un exemple intéressant d'applicabilité des droits des minorités religieuses aux peuples autochtones, c'est l'exemple de la communauté indigène Maya qui habite au Guatemala, qui est victime d'exploitation de son territoire, qui sont menées par des sociétés hydroélectriques qui sont en train de détruire en fait les fleuves et les territoires qui sont habités par ces populations pour construire en fait des centrales de production de l'énergie électrique. Donc il y a tout un conflit sur face à ces politiques de destruction de l'environnement et cette population a invoqué l'article 27 parmi les droits qui sont violés dans cette situation. Minorité nationale, là je vais un peu plus rapidement, nous avons des minorités religieuses traditionnelles, donc ils sont liés à la construction de la nation, à la construction à l'histoire de certains pays qui peuvent en fait invoquer aussi une protection en tant que minorité nationale. Donc parfois nous pouvons observer des superpositions, comme j'ai déjà dit, entre minorité religieuse et minorité nationale. Mais il y a un élément qui reste très problématique, comme je vous dis, en fait, pour Capotorti et pour l'expert canadien aussi, les droits des minorités sont des droits, en gros, liés à la nationalité. Il faut avoir la nationalité d'un pays pour exercer ces droits. Ces modèles changent à partir de 1982, à la fin de la conférence mondiale sur les politiques culturelles. À la fin de cette conférence, un professeur italien, qui s'appelle Francesco Margiotta Broglio, arrive à glisser deux ou trois petits mots dans le rapport final. Les mots sont très importants dans ce rapport, car il arrive à convaincre l'Assemblée d'insérer dans ce rapport final cette expression « minorité provenant des migrations ». À partir de là, tout un processus de réflexion sur la relation entre mobilité humaine et appartenance à une minorité s'est développé. Et effectivement, ces processus de travail sur la migration comme moteur des minorités, comme phénomène qui va produire des minorités, a abouti dans deux perspectives. La première concerne les minorités apatrides. Nous avons plusieurs minorités, plusieurs personnes dans le monde qui ont perdu leur nationalité en raison de leur appartenance à une minorité religieuse. C'est le cas, par exemple, de la population, de la minorité Rohingya en Birmanie. Donc, quand nous considérons la protection des droits des minorités religieuses, nous devons toujours regarder aussi les lois sur la nationalité. Donc, vous voyez le rapport entre nation et minorité qui revient. Il revient dans le biais de mesures discriminatoires et de persécution. Mais surtout, la perspective de la persécution. Effectivement, dans la perspective de la Convention de Genève, une religion minoritaire peut être à l'origine d'un risque bien fondé, d'une crainte bien fondée de subir une persécution. La persécution, c'est une violation grave des droits humains, et nous avons effectivement dans le monde plusieurs minorités religieuses qui sont persécutées. Par le biais de des persécutions, en fait, nous pouvons travailler encore une fois sur notre construction et observer l'existence de minorités religieuses sur place. Nous avons parfois des demandeurs d'asile qui proviennent, par exemple, de l'Iran. En Iran, les demandeurs d'asile appartiennent à la majorité musulmane chiite. Il arrive en France et il décide de se convertir au protestantisme. Donc, la conversion va changer l'appartenance de cette personne d'une majorité dans le pays d'origine à une minorité dans le pays d'accueil, mais également va produire un risque de persécution, car en Iran, en fait, la conversion à une autre religion est punie comme un délit, il s'agit du délit d'apostasie. Donc, vous voyez ce jeu de miroir, ces migrations qui vont déplacer les frontières entre majorité et minorité, dans cet exemple de la conversion religieuse. Autre élément, nous avons parfois, dans les persécutions religieuses, des minorités dans les majorités. Par exemple, au Pakistan, nous avons la minorité musulmane Ahmadi, qui est très, très, très persécutée par la majorité sunnite. Donc, nous avons normalement une image un peu monolithique de l'islam, mais là, nous pouvons vraiment observer cette minorité dans la majorité qui est victime de persécutions. Nous avons des dispositions du code pénal pakistanais contre les membres de la minorité Ahmadi. Ou sinon, nous pouvons avoir, dans le trajectoire de la persécution, des minorités qui deviennent majorité, et c'est le cas de la conversion forcée. Donc, des membres de minorités religieuses qui sont forcés à se convertir à la religion majoritaire. Donc, vous voyez, encore une fois, notre jeu de miroir et notre construction qui devient de plus en plus complexe. Je vais terminer avec la dernière perspective, que c'est celle de minorité sexuelle. Le premier juriste à associer le mot minorité au mot sexualité a été Jean-Fernand Laurent en 1988, parlant des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles. Pour Laurent, donc, il y avait une majorité hétérosexuelle et une minorité sexuelle, donc, qui correspondait aux personnes LGBT. Les femmes lesbiennes, les hommes gays et les personnes bisexuelles. À partir de là, cette association minorité-sexualité s'est développée par l'idée de l'intersectionnalité. En fait, même la minorité religieuse n'est pas un monolithe. On ne peut pas penser à l'identité humaine comme une identité polarisée seulement sur une caractéristique. Chacun de nous est un mosaïque d'éléments qui vont composer notre identité. Et dans cette complexité que nous devons retracer aujourd'hui la protection des minorités religieuses, dans le cas, par exemple, des personnes LGBT ou des femmes appartenant à une minorité. Car, peut-être, si j'appartiens à une minorité religieuse et en plus je suis une femme ou je suis homosexuel, peut-être j'ai un risque de persécution qui est différent par rapport à une personne hétérosexuelle qui appartient à une minorité ou à une personne homosexuelle qui n'appartient pas à une minorité. Donc l'idée, c'est que il y a des caractéristiques de l'identité qui peuvent interagir entre eux et produire des super-discriminations. Donc la personne est discriminée au même moment parce qu'elle appartient à une minorité et elle est homosexuelle, par exemple. Donc, vous voyez, encore une fois, jeu de miroir, et surtout, face à cette catégorie de l'intersectionnalité, je voudrais vous suggérer une exposition qu'il y a eu à l'Institut du monde arabe, à Bibi, les révolutions de l'amour. Dans ces catalogues, vous pouvez un peu repérer des tableaux ou des artistes LGBT qui ont vécu la diaspora à partir des pays arabo-musulmans, ont représenté cette idée de l'intersection entre identité sexuelle pas hétéronormée et religion. Donc, je pense que pour avoir une représentation un peu plus visuelle des choses que je suis en train de dire, ce catalogue peut être intéressant. Et donc, voilà la minorité intersectionnelle, donc plusieurs caractéristiques minoritaires, la nationalité, l'ethnie, l'origine culturelle, la langue, la religion, comme dans le cas d'un demandeur d'asile ou d'un migrant syrien, par exemple. Je termine. Conclusion. Donc, de plus en plus, les minorités sont interprétées en droit international comme des victimes. Le droit construit et naturalise la minorité en tant que victime de discrimination ou de persécution. Là, vous avez tout un débat très complexe entre juristes, sociologues, anthropologues sur la possibilité de diviser l'humanité en deux parties, une humanité vulnérable et une humanité invulnérable. L'autre élément, l'autre question concerne un droit à l'universalité qui est devenu de plus en plus un droit à la superdiversité. effectivement, cet élément de l'appartenance à l'humanité, de l'appartenance même à une minorité, était plus en plus traversé par cette complexité de caractéristiques qui marquent, qui performent l'identité humaine, mais peut-être la superdiversité, c'est un élément de l'universalité, car cette superdiversité, en fait, c'est un élément universel. Chacun de nous appartient dans une manière différente à l'humanité. Dernière question, si aujourd'hui, face à des phénomènes comme la sécularisation, la crise des pratiques religieuses, la crise des vocations, nous pouvons parler d'anciennes majorités que sont devenues de minorités. Là, l'exemple est une réflexion de Benoît XVI. Benoît XVI disait que l'Église catholique doit se comprendre comme une minorité créative qui a un héritage de valeurs qui ne sont pas des choses du passé, mais qui sont une réalité très vivante et actuelle. Donc, vous voyez, en fait, le chef d'orchestre de l'Église catholique qui arrive à dire « Nous sommes une minorité créative dans une société qui doit être réorientée et c'est à nous, en tant que minorité créative, pas de majorité dominante, de réorienter ces sociétés. » Je vous remercie beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.